frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien et là où vous êtes, et de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, d'Haïti. Bon, nous sommes très bons ici, il fait bon, le soleil est très chaud au New York, mais c'est bien. Ici en Floride, on a recommencé les services sabbatiques du côté de Tampa, et aussi du côté de Melbourne et du côté de Naples. Jusqu'à maintenant, nous attendons un mot du personnel du forum pour la congrégation de Fort Lauderdale. C'était bien de pouvoir retourner à faire des services comme à l'accoutumée et de revoir ces visages, ces beaux sourires. Et c'est très bien. Et je remercie Monsieur Thibault Duval pour sa sermonnette. Ça a été bien, c'est bien en approprié. Et merci. Bon, ce matin, j'ai un sujet que j'aimerais adresser surtout à vous, les jeunes. À vous, jeunes de l'Église du Dieu vivant. En dehors du baptême, l'un des événements les plus importants qui change la vie se produira très probablement dans le futur. Tout commence par une préparation et une planification minutieuse, car vous vous préparez à être une personne spéciale pour une personne spéciale pour le reste de votre vie. Une cérémonie merveilleuse aura lieu, remplie de joie et d'excitation, car vous promettez d'aimer cette personne spéciale jusqu'à sa mort. Au cours de toutes ces années de bonheur, il y aura aussi des moments de tristesse et d'épreuve. Le mariage a été conçu par Dieu dans le but de produire une semence divine. Veuillez nous reporter au chapitre 2 de Malachie. Malachie au chapitre 2. Malachie, ça vient juste avant Matthieu. Il faut aller jusqu'au bout de l'Ancien Testament. Et nous allons à Malachie au chapitre 2. Nous allons lire le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Dans toute sa sagesse, Dieu a créé le mariage qui reflète sa propre relation avec Jésus-Christ, une relation familiale, harmonieuse, pacifique et heureuse. Parce que si on peut continuer au même chapitre, verset 2 et au verset 16, Malachie chapitre 2, verset 16, bon, et même au verset 15. Et nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. C'est très important. Dieu a mis beaucoup d'accent sur le mariage, sur le lien conjugal. Et il faut nous poser la question, pourquoi le mariage? Comment cela a tout commencé? Nous portons-nous maintenant au chapitre 2, au chapitre 1 du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. L'homme a été créé selon l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, mais l'homme ici, ce n'est pas un seul genre. Il y a l'homme et la femme. Maintenant, si nous nous reportons au chapitre 2 du livre de Genèse, Genèse au chapitre 2, au verset 15, nous voyons la suite des choses. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donne ce don à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le verset clé, c'est le verset 18. Après que Dieu a tout créé, il a créé les animaux, les êtres vivants, il a créé le soleil, la lune, la mer, tout ça. Au verset 18, Dieu dit ici, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Posons-nous un instant et sur ce verset. Il n'est pas bon, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il avait quelque chose clochante, quelque chose de clochant, quelque chose qui n'allait pas avec Adam, a été tout seul. Dieu a dit, c'est pas bon. Et pourquoi? Comme vous l'aviez entendu dans la sermonnette, Dieu veut que nous ayons des interactions sociales. Dieu veut que nous soyons ensemble. Mais posez-vous la question, est-ce qu'on peut vraiment être un bon chrétien? On peut avoir l'amour pour les autres si on ne pratique pas cet amour avec nous-mêmes. C'est ainsi que nous voyons que Dieu a créé la femme afin que l'homme ne soit pas seul. Si vous êtes un chrétien, vous êtes chrétien, à chaque sabbat, vous allez vous assembler et à chaque fête annuelle, vous êtes à l'assemblée. Vous pratiquez l'amour avec tout le monde vous regardez, ah bon, vous êtes un monsieur très gentil, une dame très gentille. Vous êtes toujours là pour aider les autres. Vous avez toujours un beau sourire sur vos lèvres. Tout le monde vous donne du respect. Vous témoignez à Dieu du respect, vous avez de l'amour, tout ça. Alors que chez vous, vous êtes un tyran. Chez vous, vous n'avez pas de l'amour. Bon, je vais continuer un autre moment sur cet aspect. Mais ce que je veux mettre l'accent ici, c'est que Dieu a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Et on peut constater aussi dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 28, Dieu a dit au premier couple, Dieu l'a béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est que le premier homme et la première femme avaient reçu la responsabilité de dominer sur la terre. Non seulement de dominer sur la terre, mais d'avoir des progénitures, d'avoir des enfants. Vous savez, Dieu a voulu que les enfants naissent dans une famille heureuse. Il est intéressant de voir les petites filles commencent à imaginer que ce que sera cette journée, surtout ce qu'elle sera, ce qu'elle, de la façon elle va se vêtir. Elle commence à imaginer une belle robe blanche avec une longue et belle crème et un long voile blanc. Elle imagine le prince charmant qui attend, très enthousiasmé. Alors qu'elle va vers lui, son futur et pour son futur mari, avoir des larmes de joie, alors qu'il dit tranquillement lui-même, regarde-la, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi belle, aussi magnifique. Qu'ai-je fait pour mériter un si merveilleux cadeau de Dieu? Frères et sœurs, c'est très important de réfléchir à ces choses-là. C'est que la fille, la dame, la demoiselle, a rêvé à ce prince charmant. Et le prince charmant, de son côté, faisait des rêves à l'issue de sa princesse. Mais nous devons savoir que ça, c'est un cadeau de Dieu. Reportons-nous à Proverbe chapitre 18, verset 22. Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah! Celui qui trouve une bonne épouse trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. Chers frères et sœurs, que pensent vos enfants quand ils vous regardent en tant que mari et femme? Est-ce que vos enfants, quand ils vous voient, ils voient un père aimant, un père qui aime vraiment, qui témoigne de l'amour à leur maman? Est-ce que les mots du mari sont des mots gentils, des mots attentionnés, remplis de compassion, d'empathie, de respect et d'affection? Et vos enfants voient-ils une mère dont les paroles témoignent de la reconnaissance, de la gentillesse, de la volonté de servir sa famille et les autres avec compassion et amour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est facile de tromper les gens du dehors. C'est facile d'aller aux assemblées avec un visage souriant. C'est facile de nous exposer en tant que de bonne personne. Ah oui, tout va bien. Alors qu'à la maison, nos enfants, notre famille souffrent à cause de nos comportements. Il y a des hommes chez eux, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont des tyrans. Vous devez faire ce que je vous ai commandé. Parce que maintenant, il y a des gens qui des hommes qui lisent Éphésiens 5. Parce que la Bible dit, femme, obéissez à votre mari. Ils pensent que voilà, on a le verset. Vous m'obéissez. Vous faites ce que je vous demande de faire. Alors que ce même verset est plus haut, il a dit que Marie, aimez vos femmes. Comment aimer votre femme? Comment aimer quelqu'un? Selon la Bible, le Christ nous a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites les mêmes pour eux. Alors ça, c'est l'amour. Vous devez vous mettre dans leurs chaussures. Et cela se commence à la maison. Pas au dehors, pas avec les voisins, pas au bureau, pas à l'église. On doit commencer chez soi. On doit commencer à pratiquer l'amour chez soi. Voilà pourquoi Dieu a institué le mariage. Vous savez que tous ces traits importants sont perceptibles lorsque les enfants sont bébés et même avant leur naissance. Il y avait un article paru en 2018 dans le magazine Parents Magazine, un article écrit par le docteur Jessica Timmons qui posait la question suivante. Quand votre bébé peut-il vraiment commencer à entendre votre voix ou n'importe quel son provenant de l'essieu du utérus? Vous savez, parfois on pense que les enfants, maintenant quand ils sont grands, quand ils sont devenus un peu jeune, on dit adolescent, c'est maintenant qu'ils comprennent des choses. Alors non, les enfants, un bébé commence à apprendre, même avant sa naissance. Parce que, et ce sont des faits, qu'il y a certaines réactions psychologiques que nous voyons maintenant autour de nous, dans notre société. Il y a des comportements, et parfois on pense que, ah oui, ce sont des comportements qui ne sont pas normaux. Mais je dois vous garantir, chers amis, que les enfants, les bébés, par exemple, dans un petit enfant qui voit ses parents en train de se quereller chaque jour, ça va affecter l'enfant. Ça va affecter le petit bébé. Quand il y a la paix, quand il y a l'harmonie, quand il y a la joie, le vrai amour, l'enfant apprend de tout cela. Mais quand c'est l'opposé, quand c'est la confusion, c'est toujours des bruits et du désordre, des querelles, le petit enfant apprend. Et maintenant, le résultat, le petit enfant grandit avec des réactions, des problèmes psychologiques. Et ça va être difficile pour lui d'apprendre à l'école, ça va être difficile pour lui de s'adapter à la société, ça va être difficile pour lui même de faire des amis. Reprenons à Psaume 139 et lisons les versets 13 à 15. Somme 139, verset 13 à 15. C'est David qui parle. David a dit ici, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15, mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ça, c'est le produit d'un amour, l'amour d'un homme et d'une femme. Votre bébé, votre enfant, ça, c'est un produit de vous deux. Et David le savait. Chers frères et sœurs, je vais vous poser cette question. Est-ce que votre enfant, avant sa naissance, avait entendu des querelles, des chamailleries, des blasphèmes, des mots durs, des injures, de raillerie? Ou votre enfant, avant sa naissance, avait entendu des mots d'encouragement, de gentillesse, de joie, d'excitation, de compliments et de chaleur? Et votre anticipation, alors que vous attendiez avec impatience son arrivée? Selon le docteur Timmons, à mesure que l'enfant grandit, de plus en plus, les sons deviennent audibles pour lui. Et vers la 25e année de développement, les bébés réagissent aux voix et aux bruits. Le son le plus significatif que votre bébé entend dans l'utérus est la voix de sa mère. Au troisième trimestre, le bébé peut le reconnaître et il réagit en augmentant son rythme cardiaque, ce qui laisse supposer qu'il est plus alerte lorsque vous parlez. Vous savez, et même dans la psychologie, les enfants, les bébés, on reconnaît que quand on joue de la musique, par exemple, il y a la bonne musique, la musique classique, la musique légère, la musique vraiment qui aide à élever l'esprit. Maintenant, ça aide le bébé, ça aide l'enfant. Et vous allez voir un peu plus loin au cours de sa jeunesse, cet enfant-là va avoir un esprit calme, un esprit vraiment paisible. Les bébés peuvent reconnaître la voix de leur mère si celle-ci crie fort. Ils répondent également au rire, à la joie et à l'excitation. Cette joie vient d'un mariage heureux, de deux adultes spirituellement et émotionnellement mûrs, prêts à assumer cette responsabilité. Alors, mes frères, cet après-midi, je vais commencer par une série sur le mariage. Bon, je disais cet après-midi, bon, il est encore matin. Ce matin, je vais commencer une série sur le mariage. Il est important que nous comprenions l'importance de travailler à la construction d'un mariage heureux dès le début, alors que nous nous préparons à rejoindre la famille de Dieu dans le futur. Vous savez, Dieu, dans son plan, va augmenter sa famille. Vous et moi, nous sommes appelés maintenant pour, dans notre chair, dans cette vie, pour apprendre à vivre comme une famille. Comme vous l'avez vu au début, du sermon, dans Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Ce qu'elle a dit, faisons-nous. Il n'y avait plus d'un seul être. Il n'avait pas dit, je vais faire l'homme selon mon image. Il dit, faisons-nous. Maintenant, il s'agit là de travail commun. Un travail vraiment bien détaillé, des plans bien détaillés. Et il est important que nous comprenions l'importance de travailler à la construction de mariages heureux dès le début, alors que nous convergeons vers la famille de Dieu, notre naissance dans la famille de Dieu. La première partie de ce sermon commencera donc par les personnes dans l'Église, dans le corps du Christ, qui ne sont pas mariés. Je ne me concentre pas uniquement sur les jeunes célibataires. Cette information peut s'appliquer à tous les membres de l'Église, quel que soit leur âge. Il est important de comprendre que la préparation d'un mariage heureux doit reposer sur des bases solides. Quand on a une base solide, maintenant on a moins des fois, on a moins de conseils. Maintenant, on a tous les ingrédients pour être heureux, pour avoir la paix, pour avoir la joie. La beauté de trouver le partenaire idéal est ensuite romantique toute la journée, n'est qu'une partie de cet mariage. Parfois, on pense à, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la jeune fille pense à son prince charmant et le jeune homme rêve à sa princesse. Maintenant, on pense que, bon, ça, c'est la romance, ça, c'est vraiment et le bonheur, c'est tout le bonheur. Mais je dois vous dire, chers frères et sœurs, cela n'est qu'une partie du mariage. Pourquoi? Parce que pour avoir un mariage réussi, pour avoir une relation réussie, il faut avoir les trois définitions du mot amour. Le mot amour, il y a trois mots grecs. Le premier, c'est agapé. Ça, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres. L'amour que nous témoignons envers notre mère, notre père, et ça c'est ce même amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Ça c'est l'amour agapé. Et il y a l'amour filial que du mot grec philé qui passe maintenant. Ça c'est l'amitié. On aime être ensemble. On aime à passer du temps ensemble. On a tellement de choses en commun. On peut discuter quoi que ce soit. Bon, et ça c'est bien. On peut vraiment se profiter. On profite du temps. On profite de la présence, la compagnie de notre ami. Et le dernier mot. Et voir ça qui vient du, là, nous avons le mot érotique. Maintenant, ça, c'est l'amour et nous trouvons la romance. Ça, c'est la romance. Et bon, on veut s'encolasser. Et Dieu nous a dit dans sa parole de ne pas nous priver l'un de l'autre. Il faut avoir du temps pour cela. Nous devons passer du temps ensemble. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est Dieu qui a tout créé comme ça. C'est parce que cet amour est vraiment, vraiment important, parce que c'est ça qu'on a. On a de l'attraction et l'un pour l'autre. On est attrayant l'un envers l'autre. Mais voyons ce que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 13, verset 4. Dans Hébreux, au chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Chers frères et sœurs, Dieu vous a appelé pour quelque chose, de faire quelque chose sérieuse. Ici, il n'y a pas une question de, bon, parce que dans le monde, on s'aime, on se marie. Et puis, bon, peut-être dans un mois, dans deux mois, dans six mois, un an, et peut-être 10 ans. Ah bon, maintenant, ça ne marche pas. Maintenant, ça ne marche pas, bon. Et c'est fini, bon, on se divorce. Et parfois même pendant le mariage, ah bon, ma femme est jolie, mais cette dame est plus jolie que ma femme. Ah, maintenant, et je ne peux pas m'empêcher parce que j'ai des sentiments pour cette dame. Dieu dit ici, le mariage est honorable entre tous et le lit est pur. Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. C'est que maintenant, il faut penser à tout cela. Si vous voulez plaire à Dieu, vous ne pouvez pas être un mari, une femme, et puis maintenant vous dire, ah bon, et je peux regarder au-delà de mon mariage. Je peux avoir une relation au-delà de mon mariage, comme on dit, extra. Ça ne va pas avec Dieu. Et je dois vous dire, chers frères et sœurs, c'est ce que nous ferons la majorité de notre temps pour le reste de notre vie. Nous devons aimer notre époux, notre épouse. La question que j'ai pour vous, êtes-vous doué pour le passage avec les autres ou pour servir les autres à la maison et aussi dans la congrégation? Qu'en est-il de la capacité à résoudre les conflits? Êtes-vous capable de mettre de côté vos propres besoins et désirs juste pour rendre les autres heureux? Êtes-vous flexible et prêt à pardonner aux autres, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir tort? Vous pensez que, ah bon, j'ai pas tort. Mais de toute façon, vous devez penser à pardonner, même quand que vous avez raison. Chers frères et sœurs, chacun de ces domaines exige le sacrifice de pouvoir de se donner constamment, 24 heures sur 24. On peut pas être chrétien le sabbat. On est chrétien quand on arrive de la salle de réunion. On est chrétien pendant la fête des tabernacles. On est chrétien avec les autres. Et puis chez nous, bon, je fais ce que je veux. Charbonnier est maître de chez lui, maître de chez soi. Non, chers frères et sœurs. Dieu est là. Dieu nous regarde. Il voit nos penchants. Il analyse nos penchants. Il voit nos actions. Rappelez-vous bien que votre épouse est un frère, est une sœur de l'Église. Même si votre épouse ne va pas aux assemblées, il n'est pas membre ou elle n'est pas membre de l'Église. Vous avez un témoignage, vous avez avec des témoignages en tant que chrétien. Vous êtes une lumière, vous êtes le sel de votre maison. Le mariage est une affaire sérieuse. Il n'est pas pour les enfants. En tant que membre et ministre, j'ai vu de nombreux mariages brisés. Et vraiment, c'est vraiment triste et pénible qu'on voit un couple qui, au début, ont exprimé l'amour l'un envers l'autre. Un couple qui avait beaucoup de choses en commun. Un couple, non, qui avait beaucoup de beaux mots, de mots tendres. Et puis après ça, quand ça se termine en queue de poisson, maintenant, ils se déchirent l'un l'autre. Mais je dois vous dire, pour avoir un mariage heureux, c'est très important de commencer dès maintenant à pratiquer comment servir les autres. Comment résoudre les conflits, partager avec les autres et aussi apprendre à pardonner les uns les autres, surtout dans la congrégation. Le fait d'être célibataire vous donne une occasion de faire la connaissance des autres, car vous n'êtes pas lié à la responsabilité de vous occuper d'une famille, des enfants. Profitez de cette occasion en tant que membre unique de l'Église pour faire connaissance avec tout le monde, surtout lorsqu'il s'agit des fréquentations. Cela peut vous aider à avoir une variété de personnalités différentes et qui pourrait vous convenir davantage. Les rencontres amoureuses vous aident à voir les qualités des personnes que vous aimez. Et malheureusement, elles vous aident aussi à voir les qualités des personnes que vous n'aimez pas. Inviter quelqu'un à dîner n'a pas besoin d'être une situation de rencontre romantique ou une future demande en mariage. Il suffit de parler et de devenir de bons amis. J'ai entendu des gars qui disent « Ah, je ne l'invite pas à sortir parce qu'elle n'est pas mignonne. » Cela montre un manque de maturité, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Nous ne pouvons pas seulement regarder à l'extérieur, mais nous devons aussi considérer le caractère d'un individu. Veuillez vous porter au Proverbe, chapitre 31, verset 30. Le livre de Proverbe, chapitre 31. Proverbe vient après Psaume. Proverbe, chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ici, dans une autre traduction, le charme est trompeur et la beauté passe. Mais la femme qui craint le Seigneur sera louée. Je dois vous dire, chers frères et sœurs, J'ai connu beaucoup de personnes, de jolies femmes, et puis après une maladie, maintenant la beauté évanouie. J'ai connu des dames et dans leur jeunesse qui étaient très sveltes, comme des mannequins comme on dit. Mais avec le temps, elles ont pris du poids. Maintenant après la naissance des enfants. Maintenant, passer du temps pour faire des exercices, passer du temps et pour prendre soin de leur beauté, maintenant, tout est évanoui. Qu'allez-vous faire à ce moment-là? Ah bon, vous n'êtes plus ma femme. Ah bon, maintenant c'est le moment de regarder ailleurs. C'est le moment d'aller vers d'autres femmes que j'imagine qui sont mignonnes. Chers frères et sœurs, vous devez faire attention à toutes ces choses. Vous devez prendre du temps de parler à Dieu. Certaines, parfois, c'est bon de passer un bon moment avec quelqu'un, d'apprendre de cette personne. Et c'est là que j'ai réalisé, avant de l'épouser ma femme, j'aimerais quelqu'un à qui je pourrais parler des choses spirituelles, à qui je pourrais discuter des matières bibliques. Et chers frères et sœurs, croyez-moi, quand vous trouvez cette personne, vous serez sans aucun doute, que c'est la bonne personne. Ça, c'est la personne que Dieu veut pour vous. Parce que si vous pensez vraiment à rester dans l'église, vous pensez un jour à prendre naissance dans la famille divine, vous devez réfléchir à ces choses. Vous devez vous poser la question. Avec qui j'aimerais passer le reste de ma vie avec? Chers frères et sœurs, quand vous trouvez cette personne spéciale, il est important à ce stade d'impliquer Dieu. Demandez que sa volonté soit faite. Priez sur vos sentiments en parlant ouvertement à Dieu et ensuite demandez-lui de vous guider et de vous aider à faire le bon choix. Parce que, je dois vous dire, il y a tellement, nous avons des milliards de personnes, des millions de personnes dans le monde, et vous voyagez, vous faites des rencontres, vous voyez les gens, parfois vous regardez quelqu'un avec un sourire vraiment magnifique, un visage vraiment attrayant, mais savez-vous qui c'est tout de cette personne? C'est Dieu, notre Créateur, notre Père. Il sait tout, il connaît tout, il sonde les cœurs et les reins. Voilà pourquoi nous devons aller vers lui. Nous devons aller vers lui, lui prier, lui demander, Père Saint, aide-moi dans mes recherches. Aide-moi à trouver cette personne. Parce que Dieu, vous savez, Dieu connaît, vous connaissez très bien. Dieu connaissait ce que vous pensez. Il connaît, Dieu connaît votre avenir, Dieu connaît votre présent. Et Dieu connaît exactement ce que vous cherchez. Et puisque Dieu vous connaît mieux que vous-même, que vous ne vous connaissez vous-même, il faut prendre du temps de lui demander de choisir la bonne personne pour vous. Je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, pendant qu'elle était à l'ambassade au collège, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'ambition. Mon ambition principale était de devenir médecin. Et je me préparais pour l'école de médecine. Et à ce moment-là, je fréquentais, il y avait une dame dans la congrégation, elle aussi, qui étudiait la médecine. Et nous avions beaucoup en commun parce que nous passions du temps à parler de la médecine, à, comme ça. Mais une chose, je me rappelle toujours, j'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu, Dieu, de m'aider. Parce que je ne pouvais pas être, et c'était vraiment difficile pour moi d'être sûr, cette personne, cette fille-là, était la fille idéale pour moi. Et, mais ce qui est arrivé après ce qui s'est passé dans l'Église universelle, cette dame-là est restée avec l'Église universelle. Et maintenant, elle ne garde plus le sabbat, elle ne garde plus les fêtes annuelles. Et c'est vraiment écœurant. Mais, chers frères et sœurs, nous devons mettre notre confiance en Dieu et laissez-le nous guider en toutes choses. Veuillons nous reporter maintenant au psaume 62. Psaume 62, verset 8. Psaume 62, verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. Ça, c'était là les prières de David. David a dit, ayez confiance en Dieu à tout moment. Répands ton cœur devant lui. Dieu est un refuge pour nous. Chers frères et sœurs, nous devons bâtir. Nous devons construire notre foi et croire que Dieu peut faire l'impossible. Et nous devons lui faire confiance. Il y a beaucoup de jeunes dans l'église qui se posent la question. Ah, je suis seul, je suis célibataire. Maintenant, je vais passer le reste de ma vie et tout seul. Dieu connaît votre solitude. Dieu connaît, Dieu sait pertinemment ce dont vous avez besoin. Vous n'avez qu'à faire confiance, qu'à mettre votre confiance en lui. Dieu est votre refuge. Si vous avez de la foi, le Christ a dit, comme un grain de sévéné, vous pouvez faire déplacer, vous pouvez déplacer des montagnes. Avoir la foi. Nous portons-nous maintenant à 1 Jean au chapitre 5, verset 14. 1 Jean au chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si vous avez besoin d'une épouse, vous êtes célibataire, vous êtes tout seul, mais vous voulez faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voulez avoir quelqu'un pour partager votre vie, pour pratiquer l'amour, pour aimer. Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre selon sa volonté. Dieu vous écoute. Construire ce type de foi et de confiance en Dieu maintenant vous préparera à des épreuves difficiles dans votre mariage à l'avenir. Et croyez-moi, peu importe combien vous aimez votre conjoint, il y aura des épreuves et des difficultés à surmonter. Parfois, on pense que, après le mariage, maintenant c'est comme on dit, le lune de miel, et puis c'est beau, tout est magnifique, on se souvient des contes de fées, des histoires romantiques. Des histoires d'amour. Ah oui, tout est bien, tout est fini, tout finit bien. Chers frères et sœurs, je dois vous dire, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés à surmonter. Par exemple, une fausse couche, le décès d'un enfant, une blessure grave, ou le décès d'un conjoint, ou d'autres membres de la famille immédiate, la perte d'un emploi, et le fait de devoir déménager soudainement, ou simplement le fait de devoir faire face à la belle-fille, la famille de la femme, maintenant qui s'immisce constamment et cause des problèmes. Nous avons des couples qui ont des problèmes avec leur belle-mère, leur beau-père, belle-sœur, beau-frère, des gens qui causent des frictions, des problèmes. Et quelle que soit la situation, vous devez avoir la maturité émotionnelle et spirituelle pour donner le bon exemple. Comme le Christ nous a dit, et comme vous l'avez bien entendu dans la sermonnette, quand quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tournez la joue gauche. Nous apprenons, selon la Bible, de ne pas résister aux méchants. Même quand ils ne vous aiment pas, même quand ils vous font du tort, vous devez apprendre à les aimer. Chers frères et sœurs, j'aimerais passer à la suite et discuter de l'importance de la des conseils avant de s'engager. C'est bon d'avoir d'aller votre ministre. C'est bon d'aller vers vos parents. Avant de vous engager dans une relation sérieuse, avant même si vous envisagez de vous marier, vous aimez cette personne, vous aimez vous jeune homme, vous aimez cette jeune fille, et vous, jeune fille, vous aimez ce jeune homme. Vous dites, ah bon, ça, c'est lui, c'est elle. Cherchez des conseils. Des conseils vraiment, c'est très important. Parce que ça, c'est l'une des étapes les plus importantes pour chaque membre de l'Église de Dieu. Quel que soit son âge, pour construire un mariage heureux et réussi. Parfois, on pense, ah bon, j'ai assez d'expérience, j'ai tout su, je n'ai pas besoin d'avoir les avis d'autres personnes. Je me rappelle un couple qui était, ils s'aimaient l'un de l'autre, deux jeunes gens de l'église, qui pensaient qu'ils s'aimaient vraiment, et puis parce que c'était deux adultes qui ont été mariés avant. Et puis ils étaient allés voir un ministre. Et puis le ministre les posait des questions, le ministre essayait de mettre les choses au point. Et puis la fille a dit au ministre, ah bon, nous avons déjà pris la décision de nous marier. Et nous sommes résolus de nous marier, quel que soit ce que vous nous dites maintenant, nous allons nous marier. Alors le ministre a répondu, mais si vous êtes résolus, vous avez pris votre décision, pourquoi êtes-vous ici? Et maintenant je perds mon temps et vous perdez votre temps. Et malheureusement, ce couple n'a pas suivi les conseils et puis ils se sont mariés. Mais devinez, ils ne sont plus mariés aujourd'hui. Et c'était vraiment triste là. Lors de la fête des tabernacles, il y a quelques années de cela, j'ai vu cette dame et puis je me dis, mais où est votre mari? Nous ne sommes plus mariés. Et c'est triste. Deux chrétiens. De personnes qui ont vécu dans l'église, de personnes qui sont, je dirais, adultes, qui ont de la maturité physique. Nous devons prendre soin, nous devons faire attention à tout cela, chers frères et sœurs. Reportons-nous maintenant au Proverbe, livre de Proverbe chapitre 28, verset 26. Proverbe, chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Chers frères et sœurs, c'est très important pour nous de savoir que nous ne savons rien. Parfois, quand on pense qu'on a on a de la sagesse, on a de la connaissance, on n'a pas besoin des conseils des autres, on n'a pas besoin des conseils de ministres. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention à tout cela, parce que nous nous trompons, nous trompons. Lorsque vous vous décidez de vous marier, vous avez conclu une alliance avec Dieu, que vous allez aimer et chérir votre futur conjoint pour le reste de votre vie, jusqu'à sa mort. Comme le baptême, c'est la décision la plus importante que vous aurez à prendre pour changer votre vie. Cette décision devrait durer jusqu'à la mort. Voilà pourquoi la consultation prénuptiale doit toujours commencer avec une relation sérieuse. Avant une relation sérieuse ne se développe. C'est là que la maturité émotionnelle et spirituelle d'une personne est mise à l'épreuve. Il est très important d'être physiquement attiré par la personne avec laquelle vous souhaitez passer votre vie. Mais comme je l'ai déjà dit, le caractère et la maturité spirituelle doivent également être présents. Alors que, savez-vous, les traits caractéristiques de cette personne que vous voulez vous marier, vous voulez passer le reste de votre vie avec. Que savez-vous de leur famille? Y a-t-il des différences et du point de côté culturel? Connaissez-vous bien la santé de votre compagnon potentiel? Il y a tant de choses, il y a tant de questions à se poser. Parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas discuter avec les autres. Et je me rappelle, il y a un couple, après un an de mariage, que la fille a découvert que ce monsieur-là, son mari, avait vraiment été très endetté. Alors que elle ne le savait même pas. Et à ce moment-là, il fallait faire la faille, il fallait se débarrasser de certaines choses. Et puis maintenant, cette dame se demande, mais maintenant le mode de vie est complètement affecté par ces choses-là. Alors que quand la fille maintenant a demandé au jeune homme, mais à son mari, mais pourquoi vous m'avez pas parlé de ces choses-là? Et sa réponse, il est, ah bon, et je ne savais pas que je devrais vous en parler. Et d'autant plus, vous n'avez pas me posé la question. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est bon, avant même s'engager, de prendre un engagement, comme on dit, les fiançailles, il faut qu'on a des conseils, des séances de conseils avec le ministre. Le ministre, il faut étudier la Bible. Il faut prendre du temps avec vos parents, parce que vos parents vous aiment. Vos parents savent ce qui est bien pour vous. Vos parents veulent votre bonheur. Parfois, on pense à, non, je n'ai pas besoin de vous écouter. Vous êtes toujours là à s'immiscer dans mes affaires. Vous êtes toujours là à me prêcher. Chers frères et sœurs, vous, jeunes de l'Église, vous, jeunes qui m'écoutez, prenez du temps, prenez votre temps. Soyez patient. Réfléchissez à ces choses. Parfois, on pense que, après le mariage, tout sera bien. Parfois, il y a les jeunes, surtout les jeunes femmes qui vous disent, ah bon, et, bon, on a des meubles ici, on peut faire ceci, on peut faire cela, tout sera bien. Ensuite, elle ne voit plus que, elle ne voit plus que le mariage. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Parfois, on doit se déménager. On doit faire, peut-être, on doit faire des, on doit se réévaluer. On doit prendre des décisions. Alors que parfois, maintenant, ça, c'est pas toujours le cas. Par exemple, on peut, si on vit dans un endroit, il y a le climat est chaud. Maintenant, on doit se déménager pour vivre dans un climat-là où il fait froid, il y a de la neige. Maintenant, il faut tout réévaluer. Ça, c'est pas toujours facile. On doit penser à toutes ces choses-là. Maintenant, il faut penser financièrement. Est-ce qu'on a assez d'argent pour survivre? Parce que peut-être on a un emploi et on gagne bien sa vie. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui arrive quand on perd cet emploi? Maintenant, est-ce qu'on a assez d'argent épargné maintenant pour payer les factures? Il faut tout penser à cela. Et maintenant, c'est cela, un ministre peut vous aider. Et la maison, quel genre de maison que vous aimeriez habiter? Quel genre de voisinage? Vos enfants, est-ce que votre mari aimerait avoir des enfants? Oui, maintenant, ça c'est pour la femme. Et maintenant, pour le monsieur, est-ce que votre femme n'a aucune objection de devenir une mère? Et qu'en est-il de, par exemple, il y a cette histoire de, il y a des filles qui disent, ah bon, je ne veux pas allaiter mon bébé. Alors que le monsieur va dire, non, il faut allaiter le bébé et tout ça parce que, et c'est bon pour la santé du bébé et tout ça. Il faut bien planifier ces choses. Il faut tout. Il faut tout répondre. Comment allez-vous élever vos enfants? Êtes-vous d'accord tous deux sur la manière de les discipliner? Il y a parfois des conflits. Le monsieur veut discipliner ses enfants d'une manière parce que ça c'est la façon qu'il a été élevé. Alors que la femme de son côté veut discipliner d'une autre manière parce que c'est ce qu'elle a appris de ses parents. Nous devons tous penser à ces choses-là. Et à propos de votre belle-mère, votre beau-père, votre belle-sœur, votre beau-frère, s'agit-il des personnes gentilles, des personnes qui vous accueillent, ou des personnes maintenant qui cherchent à s'intégrer dans vos affaires, qui cherchent à causer du problème pour vous, à mettre du bâton dans vos roues, comme on dit. Il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de mariages qui ont été ruinés à cause de ce genre de comportement. Parce que parfois, il y a l'homme qui va toujours vers sa maman parce que il manque sa maman. La femme, sa femme ne se comporte pas sa maman. Sa femme ne fait pas la cuisine comme sa maman. La femme ne fait pas le ménage comme sa maman. Mais même il manque sa maman. Il va auprès de sa maman. Et la maman, lui, c'est comme un soldat, va vers son épouse pour lui dire, ah, bon, voilà comment il faut et vous comporter avec mon fils. Voilà comment vous devez faire la cuisine. Et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a le côté du père, lui, qui peut intervenir. Ah bon, il ne faut pas parler de cette façon à ma fille. Il faut traiter ma fille de cette façon. Voilà, chers frères et sœurs, il faut penser à toutes ces choses. Il faut penser vraiment le but du mariage. Il faut mettre Dieu avant toute chose. Donner la première place à Dieu. Nous portons à Éphésiens, au chapitre 5, verset 31, pour voir ce que Dieu dit, ce que Dieu nous recommande. Éphésiens, chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comprenez bien cela. Voilà pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, il n'y a pas question de Monsieur X, Mademoiselle Z, il y a une seule. Et c'est bien de comprendre la dualité entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ. Comme on est dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est ce même concept. On voit ici dans Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et femme. Ici, les deux deviendront une seule chair. Dieu est celui qui a conçu le mariage et il sait ce qu'il faut pour réussir. Dès le début, Dieu a voulu qu'Adam et Ève aient un mariage heureux. C'est une opportunité pour tous les membres de l'Église de grandir ensemble en atteignant le but ultime de devenir membre de la famille de Dieu. Nous ne pouvons pas enseigner aux autres dans le monde de demain comment construire un mariage heureux et développer des valeurs familiales fortes si nous ne pratiquons pas maintenant dans cette vie présente. Frères, il n'est jamais trop tard pour surmonter, changer et améliorer. Commençons maintenant. Je poursuivrai donc la deuxième partie de cette sermon prochainement. Et la prochaine fois, j'aborderai d'autres aspects du mariage ainsi que certains des problèmes difficiles que rencontrent certains couples lorsqu'ils se marient. Profitez du reste du sabbat et j'espère vous voir, ou j'espère être avec vous la prochaine fois.